ces interrogations pratiquées, théorisées, que nous avons pu entendre et aussi voir. Et peut-être, je me tournerai d'abord peut-être vers Luc, dont le premier livre, justement, intitulé Un écrit, dont on trouve justement ce balbutiement dès le titre, mais qui ne fonctionne pas d'ailleurs selon ce même principe, puisqu'il est écrit d'une façon plus, pourrait-on dire, plus classique. Est-ce que c'est cet effet de nomination qui finalement progressivement, dans ton travail poétique, a fini par le faire centrer ou le faire explorer tout particulièrement ces effets ?
En tous les cas, c'était il y a une dizaine d'années, ce livre. Mm-hmm. Et c'est dans le même temps que j'ai commencé à pratiquer cette forme, si c'en est une. Elle était à ce moment-là marginale et elle est devenue envahissante, au point de prendre toute la place. Est-ce que je réponds à ta question ? Pas tout à fait.
Oui, en même temps, oui. Et elle est arrivée par la pratique de l'oralisation ou comment des textes comme ça, et je me tournerai après bien sûr vers Jérôme pour savoir comment des textes comme ça, entre, on va dire, volontarisme aussi, volonté, désir d'explorer, de rompre, de briser.
Oui, alors ça ne provient pas de l'oralité, mm-hmm. puisque ce qui m'intéressait, moi, c'était d'improviser l'écrit. Et donc c'était cette voie-là que je voulais explorer. Et une improvisation qui venait donc constituer le texte tel que je le donne ensuite à entendre. Mmh. Et cette improvisation, cette façon d'improviser en tous les cas, cherche à provoquer des accidents. Et ces accidents, lorsqu'ils se produisent, je les regarde, plutôt que je ne les entends, je les regarde comme s'ils étaient les indications d'une direction à suivre. Mmh. Et j'essaie ainsi de succomber au vertige. Voilà.
Et de ton côté, toi, Jérôme, tes premiers textes donc, qui sont parus, on va dire, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ils se sont présentés d'entrée de jeu, justement, sous cette forme trouée, brisée.
Je crois que dès le début, les tout premiers textes en revue, peut-être le premier livre, n'avaient pas encore, je ne sais pas s'il faut dire assumé, mais n'avaient pas encore compris qu'il fallait enlever des lettres ou structurer un texte typographiquement, comme ça. Mais il travaillait déjà la syntaxe. La syntaxe, c'est-à-dire un peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, la insister pour passer à travers, pas contre, mais à travers certaines règles de syntaxe. Dès le début, ça, c'était en jeu. Et donc ensuite, c'est devenu conscient de ce que c'était en train de faire un peu plus tard, oui, rapidement. Mm-hmm. Et l'idée était ensuite de rendre les choses aussi en même temps lisibles. Je me souviens que quand j'ai publié certains de mes premiers livres, certaines personnes sont venues me voir en disant « Votre éditeur s'est fait avoir par l'imprimeur parce qu'il y a des lettres qu'on sautait dans les bouquins. » Et quand j'ai essayé de m'expliquer, on m'a pas pris au sérieux. Donc c'était un peu comme ça à nouveau. Mais rapidement, oui, ça a eu ce désir-là. C'est-à-dire que si le texte et l'écriture essaient de créer ça, alors il faut que le livre l'assume, il faut que le texte l'assume. C'est-à-dire qu'il, le cas échéant, oui, fasse sauter certaines lettres.
Oui. Et de ton côté, l'oralité a été très rapidement porteuse.
L'oralité et la travel exposition dont tu parlais tout à l'heure, à laquelle j'ai le plaisir de participer, l'oralité, on peut aussi l'appeler la poésie sonore, qui est une histoire très vaste, très structurée, grâce à des expositions comme celle-là. Et d'une certaine façon, j'ignorais que j'en faisais, dans le sens où c'est pas ce que je cherchais à faire, c'est ce que je me suis découvert en train de faire. Autrement dit, la chose la plus cruciale pour moi, c'était de lire publiquement comme ce soir. Mm-hmm. Pour moi, avant tout, la poésie, ce que ça a été pour moi, avant de devenir d'autres choses, avec travailler avec un musicien, faire des CD, être en studio de montage, La poésie, c'est avant tout une gorge, une trachée, un micro et des oreilles. Et au moment de faire ça, je m'aperçois que le texte que j'ai écrit me contraint à le lire d'une certaine façon. C'est pas construire la réalisation d'un texte, c'est le suivre. Lire, c'est être au travail et au travail au service de ce qui est écrit, du texte. Et c'est là où je m'aperçois que, il y a des conséquences dans ce que j'ai fait. On n'écrit pas comme ça en vain, et donc que ça suppose un certain type de réalisation. Mais c'était dans cet ordre-là. C'était pas, je voudrais réaliser, donc je vais écrire des textes qui. C'était l'autre sens. Des textes imposent, supposent un certain type de réalisation.
Et pour rebondir sur cette idée d'improvisation que Luc voilà, explore dans ses textes, puisque c'est, il me semble effectivement quelque chose qui continue aussi dans ta pratique, dans tes pratiques, en multipliant d'ailleurs aussi dans la dimension de collaboration avec des musiciens, entre autres, on en parlera, ou tu en parleras, cette dimension, mais finalement, la page l'arrête en quelque sorte. Comment négocier ça finalement entre le souhait de construire, de maintenir cette vibration, ce développement toujours, et puis finalement la page, ce sont des lettres, les lettres c'est aussi l'empreinte de la voix disparue, ou présente et à la fois absente. Comment ça se et finalement pourquoi écrire finalement des textes? Si c'est aussi l'idée d'improvisation qui
Alors,
ce sont des enfin voilà des questions elles-mêmes balbutiantes et en question et en cascade, oui.
Ouais. Okay. Alors, la page, parce que l'hypothèse est faite qu'une lecture serait possible par quelqu'un d'autre que moi, tu vois.
Oui, bien sûr, oui.
Tu vois.
Oui.
Par exemple, un livre pourrait être lu.
Entre autres, oui, tout
Voilà.
à fait, oui.
Je crois que c'est la raison première, non?
Oui.
Je crois que toutes les lectures sont possibles, d'ailleurs. J'en propose une, celle que je peux. D'autres le sont tout aussi, tout autant possible. Je serais même, bien sûr, curieux, moi, de les entendre, mais je n'ai pas vraiment l'occasion d'entendre d'autres lire à voix haute ces pages que j'ai écrites. Ça, c'est une chose.
Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir et pour excuse-moi de te couper,
Non, je t'en prie.
mais est-ce qu'en quelques années, est-ce que ta propre lecture a-t-elle évolué et en quoi
J'essaie de lire à la lettre.
Oui.
Et comme on entend, évidemment, le son de la lettre est une chose qui est très présente, très prégnante. Et donc j'essaie d'être précis, aussi précis que je peux, dans ce que je lis, tel que le texte l'établit, tel que le texte est établi, pardon. Pour ce qui est de ce que j'ai proposé ce soir, c'est-à-dire lire les pages d'un livre.
Oui.
Ouais. Il y a d'autres pratiques. Lorsqu'on travaille avec d'autres, évidemment, quand on est en studio, et le lieu de l'improvisation se déplace, puisque c'est un espace partagé avec d'autres. Mais c'est, enfin, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde cet autre aspect aussitôt.
On en parlera sans doute. Et justement, est-ce que toi, cet attachement à la façon dont tu as pu lire, est-ce que c'est quelque chose que tu vois évoluer entre des lectures d'il y a quelques années, quand tu lis ou que tu relis tes propres textes? Est-ce que les versions sont figées
Non,
est-ce
non,
que...
elles ne le sont pas, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, elles ont la structure du texte lui-même. Cependant, je partage ce qui vient d'être dit sur la notion de partition, c'est-à-dire qu'une une intervention orale, c'est comme, même s'il y a un texte, c'est comme un jam session ou un live, quoi, avec des musiciens. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, pas improviser au sens, en tout cas pour moi, littéral et généralisé, mais on peut interpréter la partition qu'on a en face de soi. Et cependant, elle aura toujours avec elle une structure, une œuvre qui existe sous cette forme-là. Et donc, du coup, je crois que pour cette même raison, et là aussi je partage ce qui vient d'être dit, ça peut être lu par autrui. C'est pour ça qu'on fait un livre. Un livre, ça se transmet. Et donc, il n'y a pas de façon valide ou plus juste en tant que telle de lire, même s'il y a un CD dedans. C'est ensuite aux personnes qui le lisent de travailler ça, s'ils le souhaitent.
Tout à fait. Et la façon dont aussi, entre la fabrication des textes qui s'agglutinent, qui se composent, qui se détachent, comment finalement de cette pulsion, de ce souhait qui est à la fois un souhait autour du, pourrait-on dire, du balbutiement de quelque chose qui serait peut-être à la fois un mouvement, parce que ce balbutiement peut être rapproché aussi de l'enfant qui apprend ou qui désapprend sa langue et qui est à la recherche aussi de peut-être cette grande diversité, cette grande puissance qu'il pouvait avoir, cette puissance que l'acquisition d'une langue ou même peut-être de plusieurs langues nous fait peut-être perdre. Comment ça se constitue, donc, ce passage entre des unités progressives ou même d'un passage d'un vers à l'autre? Comment le poème se compose à partir de ces données, de l'expérimentation, de la voix en soi qui se construit, qui s'écrit, qui se déploie, qui se dérobe, qui se trouve.
Je ne sais pas comment prendre cette question. Sur le comment. Je commence,
oui.
et puis je continue.
Et ça s'arrête, ça se reprend parfois.
Alors, c'est vrai que il y a une, disons que la dimension d'improvisation, elle a plusieurs échelles, on peut dire. La page, le livre.
Et des sections aussi, puisque tes livres sont aussi, voilà, constitués par...
Oui, il y a une architecture, mais cette architecture aussi, elle est causée par le mouvement de l'écrit. C'est-à-dire que j'avance et j'écris page à page, pour répondre très prosaïquement. Mm-hmm. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est ce qui est appelé par ce qui est déjà là, et ainsi d'avancer jusqu'à une fin possible, sans repentir.
D'accord.
Les accidents, qui sont des accidents de l'être, c'est un autre aspect peut-être de ce que je peux te dire. Bégaiement, balbutiement. Disons que le bégaiement peut-être situe davantage quelque chose du côté du symptôme ou de l'empêchement, ou comme ça, d'une sorte de... du pathologique. Dans le balbutiement, il me semble qu'il y a quelque chose de plus, un peu plus rieur, en tous les cas, et plus souple. Et dans son dernier livre, je vais le dire en français, mais faut de pouvoir le faire autrement, mais Pier Paolo Pasolini disait « Et ainsi je vais vers le balbutiement qui contient toutes les langues en riant. » Voilà.
Et de ton côté, Jérôme, alors est-ce qu'il y a ce même mouvement, ou est-ce qu'il y a des reprises, des montages, des recompositions ?
Oui, je me souviens, parce que ça fait quelque temps maintenant, ces ouvrages-là, où il y avait cette déconstruction-là. Je me souviens qu'il y avait un travail de, pas de cut-up ou de montage, mais il y avait un travail de prise de texte qui existe déjà, qui viennent par exemple de la technique médicale, ou qui viennent des médias, qu'ils parlent de la vie politique ou de la vie sociale, etc. Et c'était de voir à la fois... la manière dont ils étaient construits, est-ce que cette manière faisait qu'ils racontaient, ou comment est-ce qu'on les recevait. Et c'était essayer de, comme si un espèce d'organisme était pris à l'intérieur d'une toile d'araignée, et essayer de se débattre pour sortir de ça. Et donc se mettre à l'intérieur de ces textes-là, et faire le plus d'élan possible pour essayer d'y gagner un peu d'espace.
Partant l'un et l'autre d'ailleurs du vert, de ce travail... que vous avez évoqué, il y a, même si les choses ne sont pas bien sûr séparées, puisqu'elles sont tout de suite là, vous concernant l'un et l'autre, le désir de forme parfois plus narrative par moment.
Vous désir, il est très prégnant. Il donne déjà des produits. Et il était là dès le début. C'est pour ça que je parlais, quand je parlais de cote d'un texte dans la presse ou d'un texte technique, il était là dès le début. Il n'y a pas d'un côté le vers, enfin pour moi, de l'autre côté la prose. Il y a des devenirs communs de l'un à l'autre. Et le vers, c'est une façon d'habiter la prose, d'être embêté par la prose, de trouver une façon de pouvoir y survivre et réciproquement, ou y habiter et réciproquement. Donc oui, le désir narratif de récit, il est là. Sauf que le récit, c'est pour ça que c'est très très difficile le récit, pour pouvoir inventer et développer une inventivité, les lois sont tellement, on attend tellement du récit, on attend de la chronologie, on attend de l'identification, on attend du sens. Alors que la poésie a une licence qui est un peu plus large. Autrement dit, faire preuve d'inventivité dans le récit, c'est une autre paire de manches. D'où que, qu'on y va avec une pelle, une boîte à outils poétiques.
Voilà. Et puis toutes sortes de notamment dans Rénal, ton dernier livre paru, qui sans forcément investir une forme particulière, va explorer toute une série de motifs venant d'éléments littéraires précis, oui.
Oui, peut-être que je veux d'abord te dire, c'est que plutôt que le temps du récit, ce que j'aime explorer, c'est le temps de l'écrit. Et l'improvisation écrite, peut-être, justement, c'est ne pas opacifier le temps de l'écrit et le laisser apparaître.
Oui.
Et tout à l'heure, lorsque je disais que je provoquais des accidents, c'est-à-dire que, en effet, il y a une vitesse physique, donc de l'écriture, qui provoque cela, et mécaniquement. Ce sont comme des lapsus qui viennent du fait que je n'ai pas les mains suffisamment habiles pour écrire ce que je cherche à écrire à la vitesse où je veux le dire. Et donc ces écarts qui sont donc qui ne sont pas le lieu d'une intention, je les regarde comme si c'était une intention. Et voilà. C'était pour préciser une chose peut-être que j'avais moins bien dite tout à l'heure. Et il est vrai que j'ai écrit ce livre à partir d'un film, et donc effectivement à partir d'éléments narratifs, bon, mais qui sont quand même assez peu linéaires.
Oui, bien sûr. Et on a vu que toi, tu travaillais tout particulièrement l'image aussi, tu la déconstruisais. J'aurais peut-être aimé vous entendre l'un et l'autre parler sur ce rapport à l'image, parce que il est aussi très fort dans ton travail, Luc, oui, entre
Oui.
l'image produite, celle détruite, celle.
Oui, alors tu. Oui. Si tu veux parler des films,
Oui, aussi, mais aussi
ou
des
du.
images que voilà
Oui.
que le texte
Bon.
à la lecture, mais aussi à t'entendre créer, oui.
Oui. Bah, il y a une passion destructrice, joyeuse, donc
Oui.
du matériau verbal. Et donc de ce qui peut lui être associé. Mais lorsque tu parlais d'image, je l'entendais plus littéralement, puisque je travaille avec un
Oui,
cinéaste.
par ailleurs, oui.
Et je croyais que c'était cela que tu interrogeais. Et avec lui, en tous les cas, ce que moi j'ai trouvé intéressant de faire, c'est quelqu'un qui anime, qui fait donc du produit du cinéma d'animation, mais qui dessine chacune de ces images à la main, avec un procédé qui est le sien. Et donc, je lui envoie une bande son, et qui donc constitue la durée du film, et lui a une sorte d'écoute par la main de ce qu'il reçoit, et dessine la bande, l'image, ainsi. Et voilà, c'est une exploration qu'on a commencé il y a quelques années, que nous poursuivons. Mais je pourrais dire aussi que la pièce qu'on a entendue tout à l'heure, qui s'appelle Dents, celle dans laquelle on entend des sons de chantier, je pourrais dire que c'est une bande-son, parce qu'il me semble qu'il y a le temps de l'image, précisément, même si elle n'est pas projetée, mais le temps de l'image mentale pour qui l'écoute.
L'image est une véritable passion. et dont la venue au récit et le travail du récit me permet de prendre un peu plus de distance par rapport à l'image. Mais elle a été tout à fait cruciale pour m'aider à faire ce pas entre ce dont on parlait tout à l'heure, le vers et la prose poétique, et le récit. Parce que l'image, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, elle est capable de montrer et de raconter à la fois. Elle est capable de dire et de raconter à la fois ce que la langue poétique essaye de faire, mais c'est délicat. Le récit est capable de le faire. Autrement dit, pour moi, l'image, c'est quelqu'un qui, ou c'est quelque chose qui me fait traverser un espace littéraire, qui est difficile comme écrivain à traverser tout seul, entre un certain type de poésie et un certain type de récit. Que ce soit l'image cinématographique, ou l'image photographique, ou l'image évidemment de peinture, qui est là comme une façon de faire les choses, comme quelque chose qui va soutenir un travail et qui en même temps, donc à ce titre, aura vocation à prendre un peu de champ lorsqu'elle aura réussi à faire son travail, c'est-à-dire à me permettre de continuer à écrire d'autres façons.
Je me tourne peut-être vers l'assistance, s'il y a des questions.
Comme écrivain, vous voulez dire, il est important. Mais là aussi, la musique, elle est très très puissante, c'est très très dur. Ça m'arrive de faire pour vous répondre, ça m'arrive de faire un duo avec quelqu'un qui est à côté de moi, je suis au micro pied, je suis en train de lire de la poésie, cette personne est en train de jouer de la batterie. Et cette personne, ça s'avère en plus être un poète. Il s'appelle Jean-Michel Espitalier dans un duo que nous avons ensemble. Et la batterie peut très très vite me faire taire. Autrement dit, et la musique et le rythme pur que va produire la batterie est très très dur à battre aussi, est très très dur à... Autrement dit, la musique, c'est très important, tout en sachant que c'est d'une puissance tellement autre et tellement vaste qu'il faudra avoir une relation qui puisse conserver un quant à soi. Parce que sinon, on va essayer de la mimer, on va essayer de faire je ne sais quoi, et ça va être un peu délicat. Donc elle peut tout à fait influencer, j'allais dire, physiquement, physiologiquement, rythmiquement, cardiaquement. Elle peut faire l'objet d'un thème dans l'histoire. Par exemple, Echnoz écrit un livre magnifique sur Ravel. Elle peut faire un background quand on l'écrit. Et elle peut faire l'objet d'un duo quand on est sur scène dans une performance. Mais en même temps, il y a toute cette altérité, toute cette différence, cette puissance de la musique. Donc, quant à moi, il y a un espace qui doit demeurer. Le rythme, c'est autre chose. Le rythme, c'est autre chose. C'est ça, précisément. Précisément.
Je ne suis pas musicien. En revanche, je travaille avec des musiciens depuis quelques années, qui sont des musiciens qui pratiquent l'improvisation. Ça veut donc dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à improviser ensemble pour ensuite donner forme à des pièces constituées, que nous avons enregistrées et que nous pouvons aussi jouer sur scène. Ça arrive. Voilà, c'est une voie possible. L'autre voie possible, c'est aussi d'être avec, de se donner rendez-vous avec des musiciens sur scène et de ne rien préparer et d'improviser ensemble. Voilà, c'est deux voies que je pratique.
Mais peut-être pour rebondir sur cette musicalité, alors il y a des musicalités qui sont proches, mais qui quand même jouent avec des variantes très différentes. Ce balbutiement, tous ces processus que vous mettez en place font une musique très très particulière, une musique qui est aussi, nous l'avons, c'était, je pense, sous-entendu, aussi critique par rapport, bien évidemment, au discours les plus des langages qui nous traversent, et que effectivement ce genre de processus vous permettent de détruire, de déconstruire, mais ça fabrique aussi de grands effets de musicalité aussi, oui.
Absolument.
Oui.
Absolument. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ce moment dans l'histoire du jazz où des gens qui viennent avec toutes sortes de vocabulaire très précis et de grammaire très précise vont en même temps pouvoir, je ne sais pas comment ce qu'on pourrait le dire, décompenser ou déconstruire. Mm-hmm. Et ça me rappelle ça, la musicalité qui en ressort, c'est une espèce de pas de côté qui en même temps reste totalement branché sur là dont il vient, d'où il vient, et qui permet des effets très très beaux. Donc cette musicalité-là, elle est très intéressante.
Oui. Et toi, Luc, de ton côté, la musicalité interne de ce que cela produit, que ce soit d'ailleurs à la lecture ou,
Bon, c'est sonore, ça, oui. C'est certain. Voilà, le son de la lettre, donner à entendre le son de la lettre, sa force, sa ça m'intéresse. Est-ce que, voilà, parler de musicalité, c'est peut-être un tout petit peu en excès sur, la, sur ce qui se passe, à mon avis. Mais sans doute qu'il y a des effets, ouais, possiblement.
C'est peut-être que tu as raison de dire que cette musicalité, c'est difficile de parler, parce que la différence entre un solo de John Coltrane et de la poésie sonore, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a un moment, il va y avoir une attente, au moins même si elle est absente, une attente de sémanticité dans la poésie sonore. Ça ne va pas être avec des sons, ça va être avec des lettres qui ont tendance à faire des mots, qui ont tendance à avoir du sens, ou un sens, ou des sens. Et donc là aussi, c'est un endroit, la musique, qui a cet avantage. En essaim, mais c'est une différence. Ou c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte.
Et ce désir de sens, il est et de à la fois de fascination et de mise à distance, il traverse et il est-ce qu'il se retrouve finalement projeté et injecté dans évidemment l'élan que serait un livre.
Il y a c'est banal, mais il y a bien sûr une conflictualité vive entre une logique du son et une logique du sens, évidemment. Mais c'est cette conflictualité-là qui est vive, pardon, je dis la même chose autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas renoncé peut-être à dire quelque chose à quelqu'un. Et dans le même temps que cette intention se réalise, elle ne se réalise pas. Puisque une autre logique vient produire sa défection. Mais je ne crois pas qu'on en sorte, parce qu'on aurait posé qu'on en serait sorti. Alors c'est la proximité de ces deux logiques, comme elles sont à la fois ensemble et séparées, qui peut-être est le lieu de ce qui se passe.
Mais alors je ne verrais pas les choses complètement de la même manière. La conflictualité entre le son et le sens, c'est pas quelque chose que je verrais comme ça. Je crois que dans le son qui porte du sens ou qui prétend avoir une relation avec un sens, il y reste une adresse. C'est simplement un rapport qu'ils vont avoir plutôt qu'une conflictualité. Il y a un poète français qui a créé ce très beau terme. Il s'appelle Dominique Fourcade, un poète très très beau qui a écrit un livre où il parle de son sens en une phrase, en un mot plutôt. Et donc qui essaye, au lieu de mettre une conflictualité, de voir comment ce que les rapports pourraient se créer autour de d'une série de peut-être de rythmes, d'une série de temporalités, d'une série de relations, qui essaye de faire. Je n'abandonne pas du tout cette notion de sens. Il s'agit simplement d'essayer de créer des effets de sens plutôt que d'être exclusivement soumis à ce que toutes sortes de systèmes, toutes sortes de législations voudraient que. Qu'on suive, mais au contraire, il ne faut surtout pas abandonner la question du sens. Et le son peut tout à fait être partie prenante de cette traversée-là.
Quel est le rapport entre le balbutiement et la phrase claire qui échappe à chaque fois ?
Vous voulez dire la phrase claire qui échappe, ça veut dire quoi exactement ?
C'est-à-dire que de temps en temps, on m'entendait.
Oui.
De temps en temps, on lit une phrase.
De temps en temps, on comprend ce qui est dit.
Si vous voulez, oui, une phrase classique.
D'accord.
Je ne voulais pas vraiment oui, tout à fait. Utiliser le terme classique, parce que ce n'est pas sûr qu'elle est classique, d'ailleurs.
Tout à fait. parce que c'est une question intéressante, en réalité, parce qu'il ne s'agit pas pour moi d'être dans un dehors, d'être à l'extérieur, d'être dans du non-sens ou dans du « je ne ferai pas sens ». Il s'agit, c'est ce que j'essayais de parler tout à l'heure en parlant d'intime ou d'extime ou de rapport de frontière, il s'agit de voir comment ce qu'il peut y avoir un éboulis du sens sur une certaine partie du paragraphe, ou du récit, ou du discours, mais que c'est pas une implosion. Le sens va pas exploser. Il va lui arriver toutes sortes de choses, à travers ses bégaiements, à travers cette composition, à travers ses montages textuels, qui ne vont pas le faire disparaître, qui vont le faire tourner pour qu'il soit vu d'un autre angle, qu'il soit vu avec une autre lumière. Et donc, il est crucial qu'il soit et qu'on croit qu'il puisse y en avoir et qu'il y en ait. Après, c'est qu'est-ce qui va lui arriver? Et s'il lui arrive quelque chose via la déconstruction qu'on peut faire des lois syntaxiques, de l'ordre grammatical, via la manière dont il est aussi surdéterminé par toutes sortes de types de discours, alors c'est pas que du nouveau sens va apparaître, ex nihilo, c'est que la manière dont le sens va morpher, va évoluer, elle peut être visible, perceptible. Il n'y a pas du sens qui préexiste au texte et aux expressions. Et c'est une façon comme une autre, celle que je propose ici, d'essayer de voir comment est-ce qu'un texte peut être à l'ouvrage lorsqu'il s'agit qu'il y ait du sens. En essayant donc de le produire, de le coproduire, de le détruire un tout petit peu afin de le remodeler. Et donc c'est pour ça qu'il y a des phrases.
Alors je vais poser ma question autrement. Est-ce que le devenir des textes comme ça serait de faire disparaître complètement la phrase classique qu'on disait? Ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire, c'est quoi la tendance?
C'est une question aussi très précise. Ce ne sera pas de la faire disparaître, dans le sens où elle sera là parce qu'elle est produite par le réel et par toutes sortes de personnes et d'institutions. Par contre, ce sera de m'apprendre, moi, à écrire d'autres phrases dans des livres à venir. Il y a dans toute cette déconstruction que je mets dans la poésie sonore, depuis que j'ai commencé à écrire, et surtout il y a quelques années, une espèce d'incitation à moi-même ou d'essayer un apprentissage pour essayer de venir à un moment où je pourrais écrire des phrases sans avoir à faire de bégaiement, sans avoir à faire à couper des phrases ou à couper des mots ou à couper des lettres. Parce qu'il y aura une prose cursive, mais qu'il y aura quelque chose, un rythme, une syntaxe, une ponctuation, qui fera qu'on y entendra de la vie plutôt qu'une série de décalques d'effets de sens. Donc oui, on peut tout à fait revenir à des textes sans bégaiement et sans mots qui manquent.
Parce que moi, l'idée que... Désolée de monopoliser, mais l'idée qui me vient, c'est que peut-être le devenir des textes comme ça, c'est pas d'appuyer plus la phrase classique ou de la faire disparaître, mais de créer des phrases avec des mots qui n'existent pas en réalité, qui n'existent dans aucune langue, c'est-à-dire de créer une nouvelle langue.
Je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est pas mon cas. C'est pas cette direction que je prends. Au contraire, c'est vraiment pas d'être dans une espèce d'espéranto purement phonétique ou politique. C'est bouger là où je suis pour pouvoir l'habiter et que ça fasse plus de sens avec ce qu'il y a, pas contre ce qu'il y a. C'est un peu, pardon cette expression, foutre la merde dans le décor ou dans l'ameublement ou dans l'aménagement ou dans la topographie afin de pouvoir y vivre différemment, plus activement, mais pas partir sur une autre planète ou dans une autre langue.
Et de ton côté, Luc, l'horizon d'une langue qui serait pas forcément transparente, il y a aussi quand même très fortement chez toi le rapport et la présence du corps qui fait qu'on imagine que peut-être ce n'est pas forcément un horizon que tu aimerais retrouver, pourrait-on dire.
Disons que la logique de la désarticulation et la logique de l'articulation sont l'une et l'autre ensemble.
Oui.
Et c'est le même mouvement, en tous les cas. Donc, il ne s'agirait pas pour moi de renoncer à l'articulation, ni non plus à la désarticulation, mais au contraire d'insister dans cet ensemble.
Oui, sur la tension entre les deux.
Exactement.
J'ai le micro. C'est moi qui ai le micro, je peux ?
Merci.
Merci beaucoup. Deux choses. Ce que tu viens de dire, Jérôme, à propos d'une phrase qui pourrait ne pas être du bégaiement, je pense que dans le roman dont tu as parlé, en fait, la salle d'embarquement, il y a peut-être... Tout le roman n'est pas comme ça, mais il y a de grandes parties du roman qui sont comme ça, c'est-à-dire c'est carrément c'est des phrases qui ne bégaient pas, mais qui reprennent en fait cette structure un peu fragmentée des signes LED ou des petits bouts de phrases toutes prêtes. Et juste en fait un commentaire en fait juste sur ce qui vient d'être dit à propos du sens. Il y a cette double volonté d'un côté de faire sens, de travailler avec le sens, mais de l'autre côté de le déconstruire, de le détruire. Ça me rappelle un peu la question de la médialité. Enfin, je pense qu'on peut revoir cette question-là du sens du point de vue de la médialité, parce que là, l'opposition qui se profile entre, enfin, dans ce que vous dites tous les deux, c'est d'une part le sens, enfin, le langage qui parle de lui-même, donc qui ne fait pas forcément sens au sens linguistique du terme. De l'autre côté, le besoin de communication, de transmettre quelque chose, de faire bouger le mouvement, la métaphore, c'est justement aussi ce, le fait de quitter un lieu pour aller vers un autre, que ce soit un auditeur ou un autre endroit. Donc du coup, je sais pas, je pensais à cette idée de médialité pure dont parle quelque part Agamben, cette idée donc de quelque chose qui n'est pas autonome au sens où il parle de lui-même, de soi-même, tout en étant découpé du milieu, tout en n'ayant pas besoin à faire ce chemin, cette métaphore, ce mouvement. Et de l'autre côté, c'est pas du sens au sens on parlait classique, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin, c'est quelque chose qui déçoit une attente, mais qui doit la créer en même temps. C'est-à-dire, si l'attente n'est pas là, il n'y a pas de sens, même au sens de l'autonomie. Enfin, ça fait pas, ça tient pas debout. Pour ne pas dire ça fait pas sens, ça tient pas debout. Le langage, tout seul, ça tient pas debout. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entende. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dit ou qui soit... On essaye de dire quelque chose. Bon, donc là, je veux pas m'étendre, mais donc cette idée de médialité, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous représente, enfin tous les deux, qui vous parle?
Moi, j'entends dans ce que tu dis la question du commun, qu'on est à plusieurs, qu'il y a une langue qui est parlée par plusieurs, et que donc singulariser est un geste très important, sans qu'il devienne solipsiste. Sans qu'il soit qu'il ait vocation à devenir quelque chose qui serait en orbite autour de ce commun là. Donc la question de se dire avec la médialité et Agamben que un texte va fonctionner quelle que soit sa singularité dès lors qu'il est pris en charge par une paire de yeux ou une paire d'oreilles, c'est tout à fait juste. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place avec ce dernier livre, ce roman, où en effet les 4/5 du texte sont en français entre guillemets normal. L'idée c'est comment est-ce qu'on peut mettre dans la prose commune quelque chose et dont je n'ai pas la formule par avance, qui va faire qu'à son usage, il y aura quelque chose de plus que un commerce de signes et un commerce de sens et de signification qui sont déjà tous préconstruits. Comment y mettre quelque chose d'autre? Je suis en train de définir de manière très vague la littérature depuis qu'elle existe, c'est-à-dire d'y mettre quelque chose qui... Mais Mon parcours personnel, puisqu'on parlait de lui, a été d'abord de, pour singer le titre d'un roman de Marguerite Duras, « Détruire », dit-il, et ensuite revenir à la ligne de flottaison du sang, c'est-à-dire du commun, mais d'y revenir instruit de cet iconoclasme-là. Et donc la question maintenant pour moi, comme romancier et comme poète, les deux, c'est de continuer ce geste-là, mais pouvoir le faire aussi, singulièrement, dans la langue commune. Et c'est comme si le terrain de jeu ou la difficulté de l'exercice s'était déplacé, d'une certaine façon décuplé, puisque maintenant il y a toutes sortes de règles de syntaxe, de grammaire, etc., et de cette notion de récit et de langue commune qu'il faut prendre en compte et voir comment est-ce qu'elles peuvent continuer à singulariser les choses.
Oui, par rapport à cette règle commune qui est la syntaxe française, vous avez eu besoin de passer par l'évocation des langues agglutinantes et de passer donc par un extérieur. Et voilà, qu'est-ce que vous auriez des choses à nous dire là-dessus?
Il y a deux aspects. Lorsque j'ai parlé de langue agglutinante, j'étais en train de faire de la recherche sur de la linguistique et donc je pourrais même pas vous citer au sens propre des langues agglutinantes. Ce qui m'a plu, c'est le concept. Et ce qui m'a plu, c'est le registre du discours scientifique, comme une espèce de diagnostic. Où je me reconnaissais comme, bizarre à dire, mais un peu comme malade, et donc faire usage de diagnostic pour essayer de créer un antidote ou un remède. Maintenant, il y a d'autres langues, dont je ne sais pas si elles sont agglutinantes, mais une en particulier, qui est l'anglais, qui elle est beaucoup plus fluide, et ça m'est arrivé très souvent de traduire mes poèmes du français à l'anglais, afin de pouvoir les retraduire de l'anglais au français. C'est-à-dire les assouplir, comme on dit d'une machine à laver. Et ça, c'est très réel avec toutes sortes de langues. Mais dans le détail agglutinante, je me suis reconnu comme agglutiné, moi, et j'avais envie d'essayer d'arrêter de l'être. Et donc, j'avais l'impression d'avoir trouvé un diagnostic et de rentrer chez moi, c'est-à-dire dans le livre, en tenant ce diagnostic à la main. Mais le détail de la chose agglutinante, je l'ignore.
Je vais aussi peut-être dire un mot, parce que Bref, je ne crois pas qu'on puisse exclure le risque du solipsisme. Donc là, je ne l'exclus pas. Mais parler au risque du solipsisme, ça ne veut pas dire que je ne m'adresse pas à quelqu'un. Et donc, ce que j'adresse, c'est cette tentative, ou cette parole, si c'en est une, au risque d'être peut-être seul. Mais peut-être aussi, peut-elle t'encourager toi-même à faire cette expérience pour toi-même que de parler une langue qui serait la tienne. Et la dispersion des parlés ne me semble pas du tout problématique, bien au contraire. Et peut-être même là que, c'est peut-être même là que pour moi le vif de la langue est. C'est pourquoi je n'envisage pas comme une perspective le retour à une langue qui serait commune, à supposer qu'elle existe.
Merci, merci Jérôme. Beaucoup, Luc. Merci Jérôme. Merci.